c'est faux.
7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue 7 milliards de voisins et de voisines. On parle éducation comme chaque vendredi. Aujourd'hui, l'école hors les murs et dans la nature. C'est pas une idée saugrenue, mais c'est une idée qui part d'un constat alarmant. Aujourd'hui, avec la croissance des villes, les enfants n'ont plus aucun contact avec la nature. Des millions d'entre eux n'ont jamais marché pieds nus sur l'herbe, construit une cabane, joué dans la terre, grimpé dans un arbre, appréhendé la possibilité d'une chute. Et des spécialistes nous disent que c'est une immense perte pour le développement cognitif des enfants. En Europe du Nord, des écoles maternelles dans des forêts où les enfants sont dehors toute la journée jusqu'à moins 10 degrés ont fait des découvertes assez incroyables. On va en parler avec nos invités. Bonjour Moïna Fauchier de la Vigne.
Bonjour.
Vous êtes journaliste pour le journal Le Monde et vous publiez « L'enfant dans la nature pour une révolution verte de l'éducation » avec Mathieu Chéreault. Autant dire qu'en France, on en est très très loin de cette révolution verte. L'éducation nationale aime les cours de récréation bien bétonné et les familles ont la hantise d'avoir des enfants qui se salissent. On sera aussi en ligne avec Catherine Lécuyer, québécoise à Barcelone. Bonjour. Elle n'est pas en ligne, on va la voir, en effet. Elle publie « Cultiver l'émerveillement et la curiosité naturelle de nos enfants ». Les voisins, les voisines, quant à vous qui nous écoutez, regardez un petit peu autour de vous. Est-ce que la nature a disparu de la vie des enfants? Appelez-nous dès maintenant pour constater, nous décrire. 33 1 84 22 71. 71, c'est aussi le téléphone WhatsApp. Et puis en fin d'émission, comme chaque vendredi, la chronique du psychologue Ibrahima Girou, parents, enfants d'ici et d'ailleurs. Cette chronique, je vous le rappelle, est disponible aussi en podcast avec beaucoup de conseils pour les parents. Je vous lis quelques messages postés sur nos réseaux sociaux que vous pouvez commenter, Moïna Fauchier de la Vigne, quant à la prise de conscience de l'absence de nature dans la vie des enfants aujourd'hui. Djanga est dans l'ouest du Cameroun et il nous dit « Moi, pendant mon enfance, que ce soit à l'école primaire ou au collège, nos enseignants organisaient toujours des sorties dans la nature pour nous expliquer certains phénomènes comme la photosynthèse, la reproduction de certains animaux. Et donc aujourd'hui, moi, j'essaye à mon niveau de transmettre cela à mes cadets vu que le système scolaire a supprimé ce genre de sortie par manque de moyens financiers. » Abdoul Kader est à Niamey et il nous dit « Moi, je milite activement pour ce type de formation. Au Niger, seule la législation nationale bloque les pratiques d'apprentissage. Avec le soutien de mes collègues, j'espère amener le ministère de l'Éducation à adopter un texte qui peut permettre de mener ce type de formation. » Vous voyez comme quoi, un peu partout, plus les villes s'agrandissent, plus on bétonne et plus on s'aperçoit un beau matin qu'il n'y a plus d'arbres, plus de nature, plus d'espace où aller facilement avec sa classe, avec ses élèves ou avec ses enfants, finalement, Moïna Fauchier de la Vigne.
Effectivement, on ne sort plus... notamment à cause de l'urbanisation, mais pas uniquement. On est aussi beaucoup plus à l'intérieur par rapport à notre façon d'appréhender le risque, parce qu'on a peur de l'extérieur, en fait. On a peur de salir, on a peur d'un possible kidnapping qui arrive à peu près jamais, mais donc on laisse pas les enfants jouer, on laisse plus les enfants jouer dehors. Et en fait, ce phénomène a été assez rapide, en un peu plus d'une génération, ça a eu lieu. Il y a des études qui ont été faites aux États-Unis, par exemple, où on voit que des mères... qui ont été interrogées en 2004, qui citaient que elles, 70% d'entre elles sortaient tous les jours jouer dehors, et c'était moitié moins pour leurs enfants déjà.
Alors justement, on va sortir. Pourquoi ne pas profiter de l'automne pour aller ramasser des feuilles mortes? Dans le cas présent, on est dans un pays, la France, où la plupart des plantes sont caduques. Caduques, ça veut dire qu'elles perdent leurs feuilles. Alors si déjà le sujet ne vous intéresse plus, les voisins, c'est que vous êtes gravement atteint de bétonite aiguë. Alexandra Lagneau est une éducatrice à l'environnement et fondatrice de Colambol, qui propose aux écoles des sorties au grand air, pas pour faire rien, mais pour permettre aux enfants de mieux apprendre. Alice Milo l'a suivie avec les élèves de cours préparatoire, le CP de l'école Albert Thomas à Champigny-sur-Marne. On est en région parisienne.
Tu me la prêtes, s'il te plaît, pas de bouclier. Alors, donc ça, c'est une feuille en plusieurs parties. On compte les morceaux, il y en a combien là?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
9. Elle est en 9 morceaux. On dit que c'est une feuille composée. Et ça, c'est la feuille du frêne. Vous voyez l'arbre qui est avec de la mousse là juste derrière nous? Il y a de la mousse, il est gris, un peu jaune. Vous le voyez ou pas?
Oui. Et regardez, levez la tête vers les feuilles et vous allez voir que ce sont les mêmes.
Voilà. Donc le frêne, il est là, il est là-bas et il a des feuilles composées.
Donc ici, on est au parc du Plateau à Champigny-sur-Marne et on fait un atelier nature, enfin un atelier de découverte de la nature avec une classe de CP. Donc on va travailler sur les cinq sens, l'art, l'imaginaire, pour vraiment créer une émotion, un lien des participants envers la nature.
Concrètement, ils repartent dans leur sacoche avec quel savoir ?
J'attends pas à ce qu'ils apprennent quelque chose, mais c'est plutôt des émotions. Je veux que quand ils repartent d'ici, d'un atelier nature en extérieur, qu'ils repartent avec des émotions et une envie d'y retourner. Et plus ils ont envie d'y retourner, plus ils vont apprendre des choses par eux-mêmes et plus ils vont être bienveillants envers cette nature.
Il y a Jaden qui a trouvé quelque chose, là, qui a fait une remarque. Il a dit « il y a de la terre partout, partout, partout ». En fait, je sais pas si vous avez remarqué, mais sur le sol, il y a plein de petites boules de terre comme ça, là.
Oui.
Oui. Est-ce que vous savez qui fait ça ?
Les vers de terre !
C'est les petits vers de terre.
Pourquoi ?
D'accord ?
Parce que...
Eh ben en fait, ça c'est leur caca.
Ah, c'est une espèce de plante d'haricots tout doux.
Et toi, tu viens souvent dans le parc ?
Oui, pour pique-niquer avec mes cousines. Et en fait, j'aime bien quand les feuilles tombent. Parce que je préfère être dehors parce qu'il y a plus de liberté qu'à la maison.
Cet après-midi... On s'est promené dans le parc, on a parlé des feuilles.
Qu'est-ce que tu as appris, toi, aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a une chose qu'Alexandra t'a appris qui t'a particulièrement marqué ?
C'est les fruits des arbres, qui sont pas vraiment des fruits qu'on peut manger, mais les oiseaux, ils peuvent les manger.
Pourquoi tu penses que c'est important de savoir ça ?
Bah, il faut apprendre des choses quand même, il faut pas que jouer dehors, il faut apprendre. C'est fait là pour apprendre. Je préfère aller dans la nature parce qu'on peut ramasser des choses. On peut en faire avec des fleurs, un bouquet.
Oh, il y a des trucs.
T'as vu ? Il y a comme des petits poils, c'est un petit peu dufteux.
Bah parce que c'est un petit peu fou.
Ça fait un petit peu comme du velours.
Oui. C'est un peu embêtant, mais... Parce que c'est un peu dur.
Donc vous êtes l'institutrice ?
Oui, c'est ça.
Et alors pourquoi vous avez choisi d'emmener vos enfants participer à cet atelier ?
En fait, c'est vrai que j'avais entendu parler de ces ateliers nature et nous, on est quand même une école qui est dans une zone très, très urbaine. Et en plus, à l'école même, il n'y a pas d'endroit naturel. C'est-à-dire qu'on n'a aucun endroit d'herbe, de gazon, on a juste quelques arbres dans la cour. Et du coup, ils ont peu de contact finalement avec la nature et je trouvais ça chouette de découvrir cet endroit qui est à côté de l'école, donc qu'ils connaissent déjà, mais qu'ils le voient un petit peu autrement grâce à Alexandra qui a des connaissances quand même... Voilà, un peu plus poussé que moi pour leur expliquer le nom des arbres, etc.
Il y a deux graines.
Ils sont clairement différents dehors que dans la classe, ne serait-ce que parce qu'ici, ils ont de l'espace. Et je sais que moi, par exemple, on avait fait plusieurs classes de découverte à l'école et on se rend compte que quand les enfants sont dans un endroit naturel où ils ont de l'espace, où ils peuvent courir, crier, bouger sans entrave finalement, eh bien, il n'y a plus de conflit entre eux. Et ça, c'est vraiment très net. Et puis, il y en a certains qui ont des connaissances qui peuvent nous surprendre, finalement. Peut-être certains qui n'auraient pas eu l'occasion de se mettre en valeur en classe, ils ont certaines connaissances que les autres n'ont pas. Et là, d'un seul coup, ils se mettent plus en valeur. Ou alors, ça va être quelque chose qui les intéresse beaucoup plus. Donc, ils vont être plus attentifs, plus avoir envie de participer que si on restait en classe, assis à sa table. Et tout ça, en fait, ça participe aussi au plaisir d'être à l'école. Moi, je trouve que c'est très important que les enfants ils soient contents de venir. Ça fait tout. En fait, s'ils sont contents, ils étaient contents de venir aujourd'hui pour la sortie, ce matin, la séance de lecture, ils étaient dans de meilleures dispositions parce qu'ils étaient de bonne humeur.
Vous avez l'impression qu'aujourd'hui, dans l'éducation nationale, il y a une tendance à sortir de la classe, à faire la classe un peu hors les murs, où on est encore quand même très enfermé.
Le problème, c'est que l'éducation nationale, dès qu'on veut sortir des murs, c'est compliqué et c'est de plus en plus compliqué. Il y a une question de sécurité, il y a une question d'administratif, il faut normalement des parents qui nous encadrent, et puis les gens n'ont pas forcément le temps, donc c'est compliqué. Je pense que les enseignants aiment sortir des murs, ils ont envie de faire des sorties. Après, il y a aussi le contexte politique, je dirais, qui fait qu'entre les plans Vigipirate, etc., pour nous, c'est difficile et c'est des choix de direction. Donc là, depuis 3 ans, on a un directeur qui nous permet de sortir à Paris, par exemple. Mais moi, pendant 10 ans, sur cette école, on a eu interdiction de sortir à Paris alors qu'on est au pied des transports en commun. Ne serait-ce que la Tour Eiffel, par exemple, bah, certains ne l'ont jamais vue, alors qu'on est à une demi-heure de Paris, par exemple.
Ah, l'hélicoptère, c'est quoi ça, l'hélicoptère?
Ce sont des... Oui. Allez, par contre, moi aussi, j'aime bien faire la nature. Le ciel est bleu.
Oh, regarde, regarde. Des feuilles qui tombent par terre. J'ai plein de choses par terre.
Le ciel est bleu, voilà, c'est une phrase toute simple qu'on entend dans la bouche d'un enfant, mais qui n'est pas une évidence aujourd'hui, Moïna Fauchier de la Vigne.
Oui, ce que je trouve vraiment intéressant, c'est de se dire que quand on a un enfant qui est dehors comme ça, qui dit le ciel est bleu, effectivement, dans une salle de classe, on n'aura jamais un environnement qui est aussi riche qu'un environnement naturel, et aussi riche et avec des choses qui évoluent, avec des feuilles à un moment qui vont tomber. Donc on peut se rendre compte de la complexité des choses, on peut se rendre compte de la beauté du monde et on peut faire beaucoup d'expériences. Et un jeune enfant, il se développe avant tout en faisant des expériences et en développant ses 5 sens. Et pour ça, le meilleur endroit pour le faire, c'est un endroit qui est riche en matériaux et en possibilités.
Catherine Lécuyer, vous êtes bien en ligne avec nous à Barcelone, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes chercheuse en sciences de l'éducation, vous êtes québécoise. Vous, au Canada, est-ce que vous avez grandi avec un environnement naturel plus présent par rapport à la scolarité?
En fait, moi, personnellement, oui, parce que j'ai eu la chance de grandir sur une ferme. Par contre, au niveau de l'environnement formel, dans l'école, on n'est pas du tout dans la nature. Et ça fait 18 ans que je suis à Barcelone, donc je suis un peu plus au courant de la réalité espagnole maintenant que la réalité québécoise.
Catherine Lécuyer, la ligne téléphonique est très mauvaise. On a beaucoup de problèmes pour vous joindre ce matin. On va essayer de vous rappeler. Moïna Fauchier de la Vigne, à quel point les enfants sont aujourd'hui, vous citiez les États-Unis tout à l'heure, la France, à quel point les enfants sont aujourd'hui complètement coupés de la nature dans les villes?
Alors, ils sont coupés de la nature et en fait dans les villes, mais aussi dans les campagnes. Par exemple, il y a une étude qui a été faite en 2015 par l'INVS, l'Institut de veille sanitaire qui est devenu Santé publique France. Ils sont intéressés aux jeux extérieurs des enfants et ils se sont rendus compte que 4 enfants sur 10 ne sortaient jamais, jouaient jamais dehors en semaine. Et en région parisienne, c'est encore pire. Et à l'époque, les recommandations pour développer l'activité physique des enfants étaient d'intervenir pour favoriser ce jeu extérieur, parce que c'est une question de santé publique.
Alors justement, en quoi c'est un problème qu'un enfant vive entre son appartement, son école et son centre de loisirs? En quoi c'est un problème? A priori, on va dire, la ville est riche, il y a beaucoup d'offres, l'école est faite pour apprendre plein de choses, à son domicile, l'enfant a des jeux, il a des jouets, il a des jeux vidéo.
Il a aussi beaucoup de contraintes, parce qu'un enfant qui est dans un appartement, il ne peut pas sauter, par exemple. Il va avoir des contraintes de bruit, des contraintes d'espace, et surtout, c'est un environnement qui reste moins riche en possibilités. Et à l'école notamment, quand on entendait le reportage à la Champigny, l'institutrice parlait de l'école où il n'y a pas d'herbe, où il y a juste quelques arbres dans la cour. C'est un espace où on n'est pas du tout en contact avec la nature. Et cette nature, c'est pas... En fait, il y a de nombreuses études qui ont été faites et cette nature, on sait maintenant, on le savait déjà maintenant, et maintenant c'est vraiment prouvé, la nature nous fait du bien. Ça, tout le monde est d'accord qu'aller se promener en nature, ça nous fait du bien. Maintenant, on le voit avec les neurosciences, on voit la baisse du cortisol quand on fait une promenade dans un espace vert.
Vous citez le chercheur Marc Berman, qui est chercheur à l'Université de Chicago en psychologie, et qui dit 50 minutes de promenade à pied dans la nature améliore la mémoire et la concentration de 20%, notamment l'attention dirigée, c'est-à-dire que c'est l'attention qui est nécessaire pour suivre en classe.
Oui.
Personne ne le sait, ça.
Alors que la marche dans un milieu urbain n'a pas du tout le même effet. Effectivement, cette marche dans un milieu naturel, ça permet d'une certaine façon de se recharger son attention. Parce qu'on a notre capacité d'intention, on l'utilise. Et donc, si par exemple, on passe 2 heures devant la télé avant d'aller à l'école, un enfant aura déjà plus de capacité d'intention. Son attention dirigée, ça déjà épuisé avant d'arriver à l'école. Mmh.
Catherine Lécuyer, vous adhérez à ces constatations? Vous a retrouvé,
oui,
vous êtes en ligne à Barcelone?
En fait, l'enfant a besoin de façon urgente là, de ralentir. L'enfant du 21e siècle est un enfant du numérique. C'est un enfant accéléré, surstimulé par l'hyperconsommation, par l'hyperconnexion. Mmh. Un rapport récent de Santé publique France indique qu'environ un quart des enfants de 3 à 10 ans, la moitié des adolescents de 11 à 14 ans, puis le deux tiers des adolescents de 15 à 17 ans passent plus de 3 heures par jour devant un écran. Donc, c'est un changement culturel qui est très important. Ça a beaucoup de conséquences, notamment sur l'apprentissage. La nature, c'est un environnement qui a un rythme naturel. Quand on observe, par exemple, un escargot se bouger ou une fleur qui grandit ou une goutte de pluie qui tombe sur une fenêtre, tout ça, c'est lent. Donc, c'est très bon pour l'enfant parce que ça lui permet de se réadapter au rythme de la réalité. Et ça, c'est important pour l'apprentissage parce qu'une classe normale, c'est pas une classe à aller accélérer. C'est tout à fait lent lorsqu'un professeur explique une matière.
Comment expliquer, Moïna Fouché-Delavigne, que la France est complètement déconnectée de ses recherches? Ou plutôt, je ne devrais pas dire la France, mais l'éducation nationale.
Effectivement, pour l'instant, l'éducation nationale ne prend pas en compte ce sujet. C'est une des raisons pour lesquelles on voulait écrire ce livre. C'est qu'on parle des écrans qui peuvent avoir des effets négatifs sur les enfants, surtout à haute dose dès le plus jeune âge. Mais à l'inverse, on ne prend pas en compte ce besoin de nature. Et par exemple, dans les cours d'école, une école qui est construite aujourd'hui, elle peut être construite. On va avoir des architectes qui vont essayer de penser les lieux d'apprentissage à l'intérieur. Mais l'espace extérieur n'est pas pensé, n'est pas conçu pour qu'il soit adapté aux enfants et avec un environnement qui soit varié et qui ne soit pas que vide et bétonné.
La cour de récréation, d'ailleurs, en pédagogie, elle n'intéresse personne, finalement.
En France, ce n'est pas un sujet. Mais par contre, si on va dans d'autres pays, la cour est très différente. Et par exemple, j'avais fait un reportage à Annecy, j'avais rencontré une mère allemande qui trouvait scandaleux que dans une école, la cour de récréation soit juste bétonnée. Elle disait, mais ça, ce n'est pas une cour de récréation, ça ne correspond pas à ce dont les enfants ont besoin. C'est pas possible d'avoir un endroit comme ça qui soit vide.
Au Québec, Catherine Lécuyer, les cours de récréation, c'est du béton, quatre murs?
Bon, ça dépend, il y a à peu près de tout. Là, je suis plus familière avec la réalité à Barcelone, en fait, parce que ça fait 18 ans que je suis ici. À Barcelone, je vous assure que oui, c'est du béton et quatre murs, effectivement. Oui.
Oui, la France n'est pas isolée. Alors, vous nous appelez, bien sûr, les voisins, où que vous soyez. Vos commentaires, vos observations nous intéressent. Si vous constatez que les enfants sont coupés de la nature, 33 1 84 22 71 71. On accueille Ibrahima, qui est enseignant à Dakar. Bonjour, Ibrahima.
Bonjour, Trine. Bonjour, les 7 milliards de voisins.
Ibrahima, vous êtes professeur de sciences de la vie et de la terre dans un collège et lycée à Dakar. Qu'est-ce que vous constatez?
En fait, je suis étudiant, mais j'interviens en même temps.
Ibrahima, il y a un petit peu de vent autour de vous, j'ai l'impression. En même temps, c'est bon signe. Hein. Vous êtes peut-être dans l'air. D'accord.
C'est bon.
Allez-y.
Donc, je suis étudiant en fin de master, mais j'interviens aussi en tant qu'enseignant. Mm-hmm. Alors, mon témoignage est dans le sens de rappeler encore une fois, comme vos invités l'ont fait, l'impact que ça a d'être cloîtré entre quatre murs. Mm-hmm. Donc, j'enseigne les SVT, c'est des sciences qui nécessitent des connaissances de la nature et je rencontre énormément de difficultés dans les explications quand il s'agit de donner des exemples en rapport avec la nature, puisque les gens ne connaissent généralement pas, ils sont sortis de gare, ils sont cloîtrés dans des maisons, et à l'école aussi, c'est plus ou moins pareil. Mmh. Il n'y a pas de sortie. Et donc, on est obligé de faire référence à ce qu'ils connaissent. Donc, souvent des qui regardent, exemple, Mayabé, pour parler des insectes.
On vous entend plus très bien, Ibrahima. Est-ce que vous pourriez, je pense que c'est parce que vous êtes entre quatre murs, justement, est-ce que vous pouvez ressortir? Ibrahima, vous pouvez nous donner les exemples où tout d'un coup, vous vous trouvez confronté à ne pas pouvoir réellement expliquer ce que vous voulez expliquer parce que les élèves ne comprennent pas à quoi vous faites allusion? Ibrahima?
Allô? Oui.
Oui, vous pouvez nous donner des exemples? Bon, on n'arrive plus à le... Ibrahima était en train de nous expliquer, hein, je vais me faire son porte-parole, que pour parler par exemple des abeilles, il est obligé de parler de Maya l'abeille, un dessin animé pour parler des insectes et de la production de miel. Ça veut bien dire que dans une ville comme Dakar, les enfants sont largement aussi déconnectés que dans une ville comme Barcelone ou comme Paris. Alors justement, vous nous disiez, Moïna Fauché-Delavigne, puisque c'est l'objet de votre enquête, l'enfant dans la nature, que tous les pays en Europe ne sont pas dans la même situation. Il y a des pays qui ont fait des choix politiques, de société, des choix familiaux aussi, culturels, où la nature reste omniprésente dans l'apprentissage quotidien des enfants.
Effectivement, quand j'ai commencé l'enquête, j'ai commencé par les écoles en forêt, donc ce que vous évoquiez tout à l'heure, qui sont où les enfants passent toute la journée à l'extérieur, la salle de classe se passe à l'extérieur tout le temps. Et donc en Europe du Nord, c'est quelque chose qui est complètement évident. Donc il y a beaucoup d'écoles en forêt et ça se développe, mais même les écoles classiques, les enfants sortent beaucoup dehors et sont dehors quotidiennement et pendant plusieurs heures. Et depuis quelques années, ça s'est développé dans beaucoup d'autres pays dans le monde, mais notamment en Europe. Donc, par exemple, en Europe, maintenant, on a 3000 à peu près écoles en forêt, dont 2000 en Allemagne. Ça se développe aussi beaucoup, par exemple, en Angleterre, où en Angleterre, on considère, depuis à peu près une vingtaine d'années, on s'est rendu compte de ce besoin et commence à être pris en compte, notamment en Écosse aussi. Et on considère ça comme une innovation, comme une pratique innovante pour la pédagogie et nécessaire pour les enfants, pour leurs apprentissages, quel que soit leur âge, de se dire qu'on ne va pas apprendre que dans une classe fermée. En fait, c'est comme, si on ramène ça à la nutrition, par exemple, c'est comme tout d'un coup, si les enfants mangeaient que des pâtes tous les jours en classe, enfin à la cantine, les parents seraient scandalisés. Ben là, en fait, ils apprennent que dans une classe fermée assis, à peu près.
C'est de l'apprentissage et du bien-être. Donc, qu'est-ce qu'on appelle des écoles en forêt? Vous vous êtes rendu notamment au Danemark.
Les enfants, ce qui est intéressant, c'est que je trouve que ça rejoint ce qu'on a entendu dans le reportage aussi à Champigny, avec l'enseignante qui parlait des contraintes de bruit et d'espace. Et les enseignants là-bas, c'est la première chose qu'ils m'ont raconté, c'était que déjà, on a de l'espace, on n'a pas de problème de bruit, et donc les enseignants n'ont pas besoin de dire aux enfants « tais-toi, arrête de bouger ». Et les enfants ont... Déjà, rien que cette liberté-là, c'est quelque chose qui est énorme et qui change beaucoup, beaucoup, et qui permet aussi d'avoir une relation plus riche entre l'enseignant et l'enfant, qui a beaucoup de possibilités, et on aura beaucoup moins de problèmes avec un enfant qui a 3 ans dans une classe à l'intérieur. On va dire que c'est un enfant qui a des problèmes, parce que l'environnement ne correspond pas à ses besoins, en fait. Et un enfant comme ça, dans la forêt, ça ne sera pas un enfant un problème, ça sera un enfant qui ira très bien.
Alors, en même temps, dans l'imaginaire des enseignants qui ne sortent pas, ils ont souvent quand même un peu l'appréhension de se dire, faire sortir les enfants, ça va être la débandade, ils vont courir partout, on ne va pas pouvoir les contrôler, il y aura des risques d'accident, etc. Il y a beaucoup cette appréhension-là, quand même.
Effectivement, parce qu'on est dans une logique qui est beaucoup plus, et les enseignants apprennent à contrôler la classe et surtout dans une activité dirigée. Donc, quand on est en école en forêt, quelque chose qui est essentiel dans l'école en forêt, c'est une école où le jeu libre a une place importante. Donc, on va laisser plus d'espace aux enfants et plus de marge de liberté. Par contre, côté risque, il peut tomber et les enfants vont tomber par terre, mais ils vont tomber par terre, il y aura des feuilles notamment, donc ils ne vont peut-être pas se faire mal. Et surtout, c'est un apprentissage du risque qui est intéressant. Si l'enfant n'est jamais confronté à aucun risque, qui peut être un risque qui est dans un cadre mesuré par les enseignants sont présents et accompagnent l'enfant, l'enfant n'aura pas la possibilité de cet apprentissage et d'apprendre aussi à se faire confiance parce qu'il arrive au bout de son projet aussi.
Vous avez été voir sur place au Danemark sur l'île de Lolland. Vous pouvez nous dire concrètement qu'est-ce qu'on voit?
On voit des enfants qui coupent du bois et quand on est français ça fait peur.
À quel âge?
Dès le plus jeune âge, à partir de 3 ans ils commencent. Mais donc au départ
à 3 ans ils ont une scie pour couper du bois?
Ils ont un épluche légumes pour commencer. Mais en fait donc quand on voit ça au début on est frappé et en fait c'est quelque chose qui est pensé en amont. Qui est pensé et on apprend aux enfants, on apprend le mouvement. Ils ont une scie qui ne coupe pas, qui coupe très peu. Après, on leur donne un outil qui fonctionne mieux.
C'est-à-dire que ce sont des écoles où il y a des enfants qui ont des couteaux dans les mains.
Qui ont tout à fait.
Parce que ça peut sembler complètement incongru.
Oui, mais en même temps, c'est aussi une façon de développer sa concentration. Moi, j'ai vu un enfant qui a coupé du bois pendant plus d'une heure. Il était extrêmement concentré. Et je pense que ce qu'il apprenait à ce moment-là, c'était très... puissant et utile pour lui, pour son parcours scolaire.
Dans ces pays-là, comme le Danemark, l'encadrement des enfants, vous redonnez quand même des chiffres qui peuvent rendre la France assez amère. Un adulte pour 11 enfants, c'est ça ?
Oui, effectivement.
Et en France, c'est un adulte pour 23 enfants.
Donc, un enseignant pour 23.
C'est ça, ouais. On oublie la sortie en forêt dans ces cas-là ?
Non, parce que c'est aussi possible, mais ça va être possible autrement. Effectivement, c'est moins luxueux comme condition, mais c'est possible. Par exemple, je suis allée dans les Deux-Sèvres, où il y a des enseignants qui ont commencé à faire ça il y a une dizaine d'années. Et l'enseignante sortait, il y avait des parents qui accompagnaient, parce que pour avoir le bon ratio d'enfants. Ils avaient trouvé un espace de nature juste à côté de leur école, donc ils y allaient à pied. Et là-bas, ils passaient toute la matinée, une fois par semaine, dans un espace naturel. Donc ça, c'est aussi possible de le faire. Alors après, pour l'enseignant, c'est pas toujours évident parce qu'il faut oser franchir le pas. Et ça peut être intimidant d'aller dehors parce qu'on n'a pas l'habitude de sortir du cadre rassurant de la classe. Mais c'est possible.
Il y a vraiment des approches culturelles qui sont complètement différentes. Parce que quand vous êtes allé au Danemark, la presse locale a fait un reportage sur vous, journaliste, en train de faire un reportage sur ces écoles en forêt.
Effectivement, parce que quand on est en France et qu'on voit les écoles en forêt, comme on en parle peu encore en France, c'est un sujet pour une journaliste. Alors qu'au Danemark, ça existe depuis plus de 60 ans. Il y a 20% des écoles qui sont comme ça, et même les écoles classiques qui sortent, comme je vous disais. Donc, pour eux, c'est pas un sujet, c'est pas un débat, en fait.
Sujet, c'était la France, ce pays bizarre où les enfants passent toute leur journée enfermés. C'est ça, pour eux, le sujet ?
Le sujet, c'était une journaliste qui vient pour regarder l'école, pour regarder comment ça fonctionne, notre école, où les enfants sortent, parce qu'eux, ils sont toujours enfermés à l'intérieur.
Catherine Lécuyer, vous êtes chercheuse en sciences de l'éducation. Aujourd'hui, il y a un vrai problème dans la façon d'appréhender la nature dans l'apprentissage. Catherine Lécuyer, est-ce que vous êtes bien en ligne avec nous à Barcelone ? C'est la journée des catastrophes téléphoniques aujourd'hui chez 7 milliards de voisins. En tout cas, vous pouvez nous téléphoner si on arrive à rétablir les lignes 33 1 84 22 71 71. On le disait, Moïna Fauchier de la Vigne, on a moins de bagarres, plus d'autonomie, plus de calme, plus de concentration quand les enfants sont en lien avec la nature. Alors, pas nécessairement non plus en forêt, parce que tout le monde n'a pas, toutes les écoles n'ont pas à portée de main, à portée de transport en commun, à portée de bus, une forêt. Est-ce qu'on peut recréer aussi de la nature de façon un petit peu plus artificielle ?
Oui, bien sûr. Et par exemple, c'est ce qu'ils avaient commencé à faire à Strasbourg, il y a depuis une dizaine d'années déjà, et dans une école, dans un quartier d'habitat social qui s'appelle le quartier de Haute-Pierre. Donc à l'école Jacqueline, ils étaient partis du constat, ils avaient connaissance des écoles en forêt et ils voulaient offrir un contact avec la nature régulier pour les enfants qui ne sortaient jamais dehors. Le week-end, ils allaient au centre commercial, mais ils n'allaient jamais au parc. Et donc, ils se sont dit, on va faire évoluer les espaces extérieurs de l'école. Donc, au lieu d'avoir du goudron, on va les ensauvager.
Donc on va
ensauvager. Donc on va accepter que les feuilles tombent par terre. Parce que par exemple, en France, dans les cours de récréation, il n'y a pas de feuilles. Parce que comme il y a du goudron, les feuilles, on les enlève. Donc en fait, il n'y a aucun matériau.
Pourquoi on les enlève d'ailleurs ?
Bah c'est parce pour que ça soit propre. En fait, la conception des cours en France, c'est une conception...
On a peur aussi que les feuilles avec la pluie rendent la cour glissante.
Et parce qu'elle est goudronnée.
Et que les enfants tombent.
Effectivement,
si la cour n'était pas goudronnée, si c'était de la terre, les feuilles ne sont pas glissantes.
Et en fait, les cours sont pensés par rapport à la question d'entretien, sont pensés par rapport à la question de surveillance, mais ne sont pas pensés par rapport aux enfants. Et ce qui serait intéressant, c'est ce qui est en train de se faire. Bah, ça se fait déjà, notamment à Paris. Là, il y a un projet qui a commencé, les cours Oasis, qui était au départ un projet par rapport à la lutte contre le réchauffement climatique. Donc, les cours Oasis pour créer des oasis de fraîcheur dans la ville. Et donc, au départ, c'était uniquement par rapport à cette question de climat. Mmh. Mais c'est en train d'évoluer pour que ça soit un espace qui soit aussi un espace adapté aux enfants. Donc, avec un contact avec la nature, avec des matériaux, avec des possibilités de jeu et de développer ses sens, d'être en contact avec les éléments. Et donc, ça, c'est en train de se faire à Paris. Donc c'est, je trouve ça vraiment intéressant ce mouvement parce que avec des cours qui évoluent à Paris, ça peut aussi montrer l'exemple pour les autres villes. Il y a aussi à Bourg-en-Bresse où ils sont en train de faire des choses. À Dijon, il y a une enseignante qui a fait un espace sauvage aussi dans sa cour. Donc c'est tout à fait possible. Et comme ça, on peut aller même tous les jours avec les enfants leur offrir ce temps.
Et ça ne demande pas forcément de grands moyens financiers. Alors la mobilisation pour le climat est-elle possible s'il n'y a pas de compréhension, d'appréhension concrète de la nature? C'est toute la question. Et bien sûr, on peut en discuter aussi avec vous au 33 1 84 22 71 71.
7 milliards de voisins.
Tout le monde est voisin.
7 milliards de voisins.
On existe ensemble.
Vous écoutez 7 milliards de voisins, on est en direct sur RFI avec Moïna Fauchier de la Vigne. Vous êtes journaliste au journal Le Monde, vous publiez L'enfant dans la nature pour une révolution verte de l'éducation. On en est encore très très loin de cette révolution verte en France. Vous venez de nous expliquer que dans les cours de récréation, dans les villes françaises, on est encore très obsédé par le fait qu'il faut balayer les feuilles quand par chance il y a un platane dans une cour de récréation. Vous citez d'ailleurs dans votre livre le fait que la plupart des enfants ne sont pas capables de reconnaître un chêne. C'est quand même une connaissance de base hein, aujourd'hui. Vous donnez aussi un chiffre, je ne sais plus, est-ce que c'est 30% des enfants de 8 à 11 ans qui ne savent pas que les frites sont réalisées à partir de pommes de terre?
Oui, et ou qui ne, y a un tiers des enfants entre 8 et 12 ans qui ne savent pas reconnaître une figue d'un poireau. Donc c'est assez frappant quand même, mais je ne suis pas complètement d'accord avec vous par rapport à la révolution verte, parce que effectivement, il n'y a pas de prise de conscience, il n'y a pas de mouvement du côté de l'éducation nationale ou du côté du ministère de la Santé ou du côté de la petite enfance. Mais par contre, il y a des choses qui se passent avec des enseignants, qui sortent, même si ce n'est pas encore au programme, qui sortent parce que leur conseiller pédagogique accepte qu'ils sortent et qu'ils mettent des choses en place. Et ça se développe beaucoup. Par exemple, dans les Deux-Sèvres, mais pas que. Maintenant, il y a aussi des choses qui se passent partout. La semaine dernière, j'étais à Rennes. Il y a des enseignants qui ont commencé là-bas. Dans l'Orne, à Alençon, il y a un enseignant à Paris, en région parisienne. Là, on voyait à Champigny. Dans le Doubs aussi, il y a des choses qui se passent. Donc, il y a beaucoup de formations.
Ouais. Pour faire sortir les enfants et pour aménager aussi un petit espace au pied de l'école
d'une façon ou d'une autre. À Dijon, ça va être l'enseignante qui va aménager l'espace pour pouvoir le faire dans sa cour. Sinon, ça va être sortir dans un parc à côté. Il y a plusieurs façons de le faire. C'est ça qui est intéressant aussi.
Catherine Lécuyer, chercheuse en sciences de l'éducation. Est-ce qu'on a réussi à vous retrouver au téléphone? Vous êtes
Est-ce
en ligne.
Est-ce que vous m'entendez
bien
maintenant?
Oui, nous, on vous entend très bien là. Très bien. Justement, quant à la mobilisation pour le climat, impossible s'il n'y a pas cette appréhension dans la pédagogie même de la place de la nature, hein, dans la façon d'élever les enfants. Comment vous voyez les choses, vous, en tant que spécialiste de l'éducation?
En fait, la nature est très importante. Au niveau de l'apprentissage, le jeu libre est tout à fait crucial, là, parce que le jeu libre, c'est le véhicule à travers duquel l'enfant trouve un défi qui s'ajuste à ses propres capacités. C'est-à-dire que lorsque le défi de l'enfant est trop élevé, l'enfant ressent de l'anxiété. Et si le défi, c'est pour lui quelque chose de trop facile, donc il s'ennuie. C'est ce qui se passe lorsque l'enfant est devant un écran, parce que l'enfant est passif. Donc, à travers du jeu libre, qui normalement a lieu là, dans la nature, l'enfant trouve ce défi qui s'ajuste à ses capacités. C'est tout à fait... Cette idée-là est au cœur, d'ailleurs, de la pédagogie montessorienne. Là. Et en psychologie, on parle du locus de contrôle. Donc, c'est l'endroit où l'enfant, où la prise de décision a lieu. Donc, un locus de contrôle interne chez l'enfant, c'est un enfant qui est responsable, qui assume ses décisions, qui est actif, qui est ouvert devant la réalité. Un locus de contrôle externe, ce serait l'enfant qui ne réagit que devant le châtiment, les récompenses, qui pense que les autres ont toujours sont toujours coupables pour ses propres actuations. Donc, la nature, elle est telle qu'elle, elle ne s'ajuste pas à ce qu'on veut, non? Le monde digital, oui, il peut s'ajuster, puis il va à un clic.
Et en quoi
là,
le fait d'être dans
la
nature...
il faut que nous, on s'ajuste à elle. Donc,
Catherine Lécuyer...
C'est quelque chose qui nous permet de ralentir. La réalité est lente, donc la nature nous permet d'aller au rythme de la réalité, finalement.
Catherine Lécuyer, en quoi, justement, le fait de mettre les enfants à l'extérieur, dans la nature, hein, et pas à l'extérieur dans une ville, en quoi ça leur permet concrètement, si vous pouvez nous donner des exemples, d'apprendre à prendre des décisions? Catherine Lécuyer, est-ce que vous entendez mes questions? Bon, décidément, je crois qu'on n'a pas de chance. Mais oui, Moïna Fauchier de Lavigne, vous souhaitez répondre à la question.
En fait, dans un espace naturel, comme il y a beaucoup de possibilités, on va avoir un arbre, on va avoir de la terre, on va avoir des feuilles. Donc, on va prendre la décision d'éventuellement grimper à l'arbre, essayer de grimper à l'arbre, de se rendre compte qu'on est trop petit pour attraper la branche. Mais peut-être que dans 2 mois, on arrivera à le faire. Et peut-être qu'on va tomber. Mais c'est aussi comme ça qu'on apprend ses limites et qu'on apprend que nous ne sommes pas tout puissants. Et ça, c'est quelque chose d'aussi de très important dans l'éducation, de se rendre compte des limites de chacun. Et c'est grâce à ces éléments-là qu'on aura ça. Si on est juste dans un espace qui est ou bétonné ou même très artificiel, par exemple, si c'est que des structures qui sont pensées pour les enfants, avec un toboggan, il y a 3 choses à faire dessus, mais c'est pas infini les possibilités. Alors qu'à l'extérieur, dans un espace naturel, les possibilités sont beaucoup plus larges et de texture et d'expérimentation. Avec un bâton, on peut faire une perche, on peut faire un bateau, on peut faire tout ce qu'on veut.
L'école dans la nature après 6 ans, est-ce que c'est vraiment réaliste sur le plan pédagogique, notamment dans des pays qui sont quand même obsédés par le fait que les enfants doivent apprendre des choses, lire, écrire, compter?
On apprend aussi dehors, on peut apprendre même mieux dehors. Il y a aussi des études qui ont été faites, notamment par rapport aux compétences cognitives ou à la concentration. Une classe qui se tient sous un arbre, l'enseignant se sentira mieux et les élèves seront plus concentrés, par exemple. Donc, on pourrait tout à fait apprendre dehors. Et notamment, dans les Deux-Sèvres, il y a une école où vous avez commencé en maternelle, avec Christelle Ferjou, l'enseignante à l'époque, il y a 10 ans. Maintenant, ils font ça à tous les niveaux, jusqu'au CM2. Ils sortent une fois par semaine et ils sortent et en élémentaire.
C'est-à-dire
donc ils sortent
pour continuer le programme, finalement.
Ils font le programme, ils vont faire de l'anglais dehors, ils vont faire des sciences dehors, on peut faire plein de choses dehors. Et surtout, une enseignante m'avait raconté, elle, en étant dehors, c'est moins prévisible, donc c'est plus compliqué à gérer pour un enseignant. Mais c'est aussi ça qui est très intéressant, c'est que comme c'est imprévisible, on a des surprises et on peut s'émerveiller, notamment. Elle me racontait qu'il y a quelques mois avant, il y avait eu beaucoup de givre, il y avait un lac gelé et c'était magnifique. Mmh. Et ils ont vécu ça ensemble et c'est bon et pour les apprentissages. Ils ont fait des tests pour la température, mais c'est aussi bon pour le bien-être des enfants, pour la cohésion de groupe. Et ça...
Donc la nature, c'est un cadre pour apprendre et un objet d'étude qui débouche lui-même sur des apprentissages.
C'est un cadre pour apprendre, c'est un cadre pour jouer, pour apprendre. Et c'est un cadre qui facilite le bien-être, effectivement.
La question qui se pose, c'est quand même la formation des enseignants aujourd'hui, parce que vous parliez de cette mobilisation certaine d'enseignants aujourd'hui. Donc ça commence par la base, mais ça tient à la bonne volonté. Comment est-ce que les enseignants peuvent se former à ça?
Alors effectivement, pour l'instant, il n'existe pas de formation dans la formation continue ou dans la formation initiale. Mais par exemple, les enseignants qui commencent, ils vont s'auto-former, ils vont aller voir d'autres écoles. L'enseignant qui a commencé à Paris, par exemple, il est en train de préparer un voyage pour aller voir comment ça se passe, la classe dehors, dans d'autres endroits. Il y a un MOOC, par exemple, qui est en ligne, qui s'appelle Passeurs de Nature.
Il y a des guides. Massive Online Courses, donc voilà. C'est gratuit, ça se trouve sur Internet.
Oui, celui-là, ce n'est pas gratuit, mais il y a des choses qui se font et il y a des associations qui peuvent aider. Et après, il y a des enseignants qui réclament et à force de réclamer, il y a des choses qui sont mises en place aussi dans le cadre de l'éducation nationale.
Et les principaux freins, en 2 mots, qui sont opposés par l'administration aux enseignants, en général?
Par exemple, à Paris, ce qui aurait pu coincer, mais ça n'a pas coincé, c'était la question du jeu libre. Le jeu libre est quelque chose qui est difficile à accepter.
Oui, parce que si par hasard les enfants n'apprenaient rien, ça serait très dangereux.
Voilà.
Merci à vous, Moïna Fauchier de Lavigne. Vous êtes journaliste pour le journal Le Monde. Vous publiez L'enfant dans la nature pour une révolution verte de l'éducation. C'est publié chez Fayard. On y apprend beaucoup de choses. Et merci à Catherine Lécuyer. Cultiver l'émerveillement et la curiosité naturelle de nos enfants. C'est publié chez Erol. Dans quelques instants, la chronique Parents-enfants d'ici et d'ailleurs du psychologue Ibrahima Girou. Ça sera juste après Eric Bibb. Got a brother in Conakry, a sister in Nairobi, got another brother down in Cape Town. I got an uncle living in Lagos, a brother in Bamako, I got a sister living in old Cairo. No matter where you are,
near or far, wherever in the world you may be, whether feeling low or in the flow. Remember family, got a cousin in Kinshasa, a sister in Luanda, got another one living in Maputo, got a niece in Tunis, a nephew in Dakar, another uncle living in Yamoussoukro. No matter where you are, near or far, wherever in the world you may be, whether feeling low or in the flow, remember family.
Eric Bibb, Remember Family, chez 7 milliards de voisins sur RFI. Et tout de suite, on donne la parole aux parents, enfants d'ici et d'ailleurs, le psychologue Ibrahima Giraud.
On est plus le fils de son époque que le fils de son père.
Enfants d'ici et d'ailleurs, c'est une chronique que vous retrouvez chaque semaine chez 7 milliards de voisins sur RFI, mais aussi en podcast sur les plateformes de téléchargement avec le chroniqueur psychologue Ibrahima Giraud. Bonjour Ibrahima Giraud.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes psychologue, vous travaillez pour l'UNICEF à Dakar, au Sénégal. Et nous abordons la quatrième chronique. On a vu quel type d'éducateur êtes-vous, le parent qui décadre, le parent qui encadre, le parent qui cadre trop. Et aujourd'hui, être parent, ça ne signifie pas être parfait. Je vais parler au nom de tous les parents. Ouf !
Emmanuel, j'ai reçu beaucoup de parents en consultation qui culpabilisent de ne pas faire les choses comme c'est de vrai, qui s'en veulent de ne pas avoir la bonne approche et qui aimeraient vraiment avoir les rapports les plus parfaits possibles avec leurs enfants. Si pour certains, ça donne un coup de déprime, parfois passager, qui passe au bout de deux jours, pour d'autres, c'est de la torture, c'est beaucoup de souffrance. Et c'est un des cas où la recherche de la perfection mène vraiment, vraiment à la souffrance. Avant tout, il faut préciser qu'il n'y a rien de mal à vouloir faire mieux. Cependant, cela nécessite au moins trois ou quatre choses. Premièrement, il faut comprendre et accepter qu'on n'est pas parfait et qu'on ne le sera jamais. C'est signé, c'est clair.
Bon, donc ça, il faut que ça se grave dans le disque dur du parent.
Il faut que ce soit accepté.
Ouais.
C'est le point de départ. Deuxièmement, il faut être réaliste en conséquence, donc dans les objectifs, et ne pas viser l'impossible. Troisièmement, ne pas perdre son temps dans les remords et ne prendre du passé que ce qui est utile. Et enfin, ne pas s'accabler pour ne pas accabler les autres et pour augmenter ses chances de réussir à vivre pleinement dans le présent.
En même temps, les psys disent beaucoup, il faut faire face à son passé.
Certainement. Cependant, il ne faut pas tourner le dos à son présent. Vous savez, j'ai reçu des parents en détresse, paralysés par un sentiment de culpabilité parce qu'ils se seraient mal comportés avec leurs enfants. Dans le discours de ces parents, on peut sentir qu'ils souffrent au moins de deux choses, de s'être mal comportés avec leurs enfants et de ne pas savoir comment créer des opportunités pour se rattraper. Ces parents ne réalisent pas que leur propre sentiment de culpabilité empêche en fait la communication. Ça fait des silences qui en disent long ou qui créent la gêne et de la distance entre parent et enfant. Et l'enfant a du mal à deviner ce qui se passe dans la tête et dans le cœur de son parent.
Mais justement, alors qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un enfant quand son parent se trompe ?
Certainement un milliard de choses. Ça dépend beaucoup de l'attitude en fait du parent lui-même quand il se trompe et de son attitude quand les autres se trompent. Par exemple, si le parent ne supporte que ses propres défauts et jamais ceux des autres, alors il apparaîtra comme injuste voire tyrannique aux yeux de son enfant. S'il se montre au contraire patient avec les défauts d'autrui, alors l'enfant pourra supporter les siens comme dans un miroir qui lui renvoie sa propre image. Mais il y a quelque chose de plus vicieux, c'est quand l'enfant perçoit chez le parent un sentiment de culpabilité. Les enfants un peu plus grands, un peu plus âgés, sont peut-être capables d'aider le parent à gérer sa propre culpabilité. Mais je ne suis pas sûr que ce soit une excellente chose pour le parent, encore moins pour ses enfants qui sont ainsi exposés à une inversion des rôles et à une sorte d'adultisation.
Adultisation des enfants, donc.
Adultisation. Chez les jeunes enfants, ce n'est certainement pas une bonne chose car ils n'ont pas tout le bagage qu'il faut pour comprendre et gérer cette attitude et ces émotions du parent, d'une part, et les ressentis que cela peut créer chez eux. Ils n'ont pas les mots pour les nommer.
Donc, il ne faudrait jamais se sentir coupable devant son enfant ?
Reconnaître son erreur est certainement un élément de grandeur d'âme. Cependant, on voit plus facilement les défauts que les qualités chez quelqu'un qui fait des bêtises et qui s'excuse tout le temps. Il ne s'agit pas non plus, soyons clairs, de faire comme s'il ne s'est rien passé. Ce serait l'autre extrême. Mais le parent a besoin d'être à l'écoute de lui-même, à l'écoute de son enfant. Cette écoute diminue considérablement les risques de se tromper et de devoir s'excuser tout le temps ou de nier qu'il s'est passé quelque chose d'injuste.
Ibrahima Giroud, la chronique parents-enfants d'ici et d'ailleurs. À chaque fin de chronique, on a le droit à une cerise sur le gâteau, c'est-à-dire la question à méditer pour tous les parents.
Cette semaine, je vous propose une réflexion. Pour toutes les bonnes raisons de faire face à son passé, il y a de meilleures raisons de faire face à son présent.
Et ben voilà, et c'est à réécouter en podcast sur les plateformes de téléchargement parents-enfants d'ici. Et d'ailleurs, prochaine chronique Ibrahima Giroud, ce sera des conseils pour un meilleur temps passé avec ses enfants.
Alors, on dit quoi ?
Bonjour Diara Ndiaye.
Bonjour Emmanuel.
La présentatrice de Alors on dit quoi ? Vous vous intéressez demain dans votre émission au quotidien des jeunes qui vivent dans un pays en crise.
Absolument, les vagues de contestation se multiplient à travers les quatre coins du monde, comme on le voit à Hong Kong, en Algérie, en Bolivie. Et on verra que l'Afrique subsaharienne n'est pas en reste. Alors direction la Guinée, mais aussi dans les Caraïbes, en Haïti.
Nous sommes confrontés à une hausse d'inflation, qu'on ne peut plus acheter à manger, on ne peut plus subvenir à nos besoins primaires et tout ça nous rend beaucoup plus vulnérables par rapport à notre situation avant. Et aussi, il y a l'ONG aussi qui revoit mon contrat à temps partiel. Des fois, j'ai frôlé la dépression. Il y a des amis qui m'aident et qui sont toujours là pour moi. Et donc, je me fais avec. C'est une situation assez criante ici. Donc, on attend que ça soit résolu aussi rapidement que possible. On attend aussi que le président, qui est aussi le garant de l'abonnement des institutions, fasse quelque chose, s'il ne veut pas qu'il démissionne, en fait.
Le courage des jeunes qui vivent dans des pays en crise, Diara, c'est demain, alors on dit quoi ? À 9h10, temps universel.
Sur l'antenne Monde et à 10h10, temps universel sur l'antenne Afrique, Emmanuel.
À demain, Diara.
Merci.
Et avant de se quitter, pour les voisins à Dakar, j'en profite pour vous signaler qu'on sera chez vous pour deux émissions en public la semaine prochaine, mardi 10 décembre à 14h à l'Institut français pour Challenge Up Afrique. Vous savez, le concours de la meilleure application pour rendre la ville intelligente. Vous découvrirez les finalistes et le gagnant et on discutera tous ensemble de la ville de demain. Est-ce que les applis numériques peuvent améliorer la vie des habitants, transport, déchets, énergie, tout ça avec un smartphone. Donc ça, c'est le rendez-vous mardi 10 décembre à 14h à l'Institut français et on vous attend nombreux. Et le lendemain, le mercredi 11 décembre à 13h30, on sera à l'école spéciale polytechnique pour l'école supérieure polytechnique pour une autre émission en public consacrée à la nouvelle place des filles dans l'enseignement supérieur. Est-ce que c'est la fin d'une longue route ? Est-ce qu'il y a encore des défis pour les filles ? C'est vrai, elles sont presque partout majoritaires maintenant. On regardera dans le rétroviseur pour comprendre que ce n'était pas une évidence il y a quelques années. À l'indépendance, on avait 3% de filles scolarisées. Voilà, pour participer à toutes nos émissions, vous le savez, c'est toujours le même numéro de téléphone et également le WhatsApp 33 1 84 22 71 71. À très vite, les voisins et les voisines. La sélection.